Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 22 de la saison 4, à votre émission qui vous parle série télévisée avec Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue à toi, on va, comme chaque semaine, ne pas tarder à revoir avec toi bien les petites nouveautés que tu as pu consommer pour nous finalement.
Oui. Alors, je vais commencer par la première que j'ai attendu un petit temps avant de traiter parce que elle me plaît beaucoup et je voulais être sûre qu'elle allait continuer à me plaire. Alors, j'aurais pu attendre qu'elle soit finie, hein, mais là, il reste encore deux petits épisodes avant que je l'ai fini. Il s'agit de Big Little Lies.
Mmh.
C'est une série HBO et c'est même malheureusement une mini-série.
Ça va s'arrêter là?
Oui.
Bah pourtant, j'aime bien l'ambiance.
Ah, moi aussi, j'adore. Et franchement, ça a tout d'une série, quoi. Ça pourrait continuer éternellement. Pour moi, ça...
Enfin, j'aime bien l'ambiance, même si je déteste un des personnages.
Oui, donc on va peut-être expliquer de quoi il s'agit. Donc, mini-série de prestige, on pourrait dire, pour HBO, puisque nous avons quand même un casting de rêve dans cette mini-série. Nous avons notamment Nicole Kidman et Reese Witherspoon, que nous retrouvons dans des rôles principaux. Mmh. On retrouve aussi... étant donné que je suis plus sûre du nom, je vais me taire.
On va rien dire de plus, oui.
Voilà. Enfin, il y a beaucoup d'autres acteurs connus aussi, mais peut-être un petit peu moins quand même que ces deux grandes stars du cinéma. Et on suit simplement la vie désespérée de femme au foyer. Hein, on pourrait se croire dans Desperate Housewives, presque. Sauf qu'on est dans un milieu encore plus aisé que les Desperate Housewives. Nous sommes dans la petite communauté de la ville de Monterey, ville côtière. Donc, ils vivent tous dans des magnifiques villas au bord de...
Monterey.
Oui, exactement.
On est déjà passé là-bas?
Oui.
Ah, ça, je n'avais pas reconnu, par
t'avais
contre.
Tu n'avais pas saisi ça?
Non. Ouais.
On a des magnifiques villas qui doivent coûter la peau des fesses et plus encore. Et quelques familles comme ça, dont on suit les péripéties... avec un prétexte, c'est vrai, mais qui, franchement, me paraît assez superflu, finalement. C'est que, dès le début du tout premier épisode, on apprend que quelqu'un est mort, un meurtre a eu lieu, et on n'en sait pas beaucoup plus. On voit tout au long de la série, même si j'ai l'impression que c'était beaucoup plus présent dans les premiers épisodes que par la suite, des personnes se faire interroger pour en savoir un peu plus sur l'ambiance de la communauté et donc démêler qui aurait pu faire le coup. Sauf que nous sommes gardés dans le noir, nous ne savons pas qui est mort, nous ne savons pas grand chose finalement.
Ouais, d'ailleurs, moi ça me laisse présager un grand ouah à la fin.
Oui, tu crois ?
Je crois qu'ils vont vraiment nous surprendre.
Ah, ben écoute, oui, on verra. Je sais pas du tout quoi en penser de ça parce que je dois t'avouer que. C'est le truc qui m'embête un petit peu. J'ai un peu peur que ça dérape à cause de ça. Ce prétexte-là n'était vraiment pas nécessaire parce que le simple fait de suivre ces quelques femmes au foyer suffisait largement à alpaguer le téléspectateur. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y avait besoin de plus.
Bon, maintenant, je me trompe peut-être, mais je crois malgré tout que par la mise en scène, donc justement d'avoir fait ce secret autour de l'histoire, doit t'amener vers quelque chose normalement, une option que tu n'aurais pas normalement pensé.
Bah écoute, oui, quand on pose ce type de mystère, évidemment, on ne peut que le supposer, surtout si c'est une mini-série et que ça doit s'arrêter là. On ose espérer, en effet, que ça mène à quelque chose d'important. Mais ceci dit, enfin, ça aurait été quelques actrices un peu moins connues et qui auraient pu être, j'imagine que la raison pour laquelle ça n'est pas devenu une série mais que c'est resté une mini-série, c'est le fait que ça doit être difficile de s'assurer de la présence de ces grands noms année après année sur une série de ce style-là, même si il n'y a que 7 épisodes hein, finalement, mais malgré tout, ça demande un engagement sur le long terme que j'imagine n'auront peut-être pas obtenu. Enfin, en tout cas. Au minimum, même si on peut regretter que ça en restera là, il faut admettre que ces actrices crèvent l'écran. Elles sont absolument magnifiques.
Bah, elles l'ont toujours été, c'est pas nouveau.
Oui, je suis d'accord. Hein. J'ai jamais remis en cause leur talent, mais je dois dire que là, on les redécouvre vraiment. Enfin, moi, je suis amoureuse, quoi. on pourrait tout à fait dire ça comme ça. Je trouve ça très intéressant parce que dès le début, en fait, on plonge totalement dans le point de vue de ces femmes. On est avec elles, on vit avec elles, alors qu'elles ont des vies, mais vraiment pas passionnante du tout, hein. Le plus grand, enfin les plus grandes tracasseries qu'il peut y avoir, ce sont des mésententes avec un ex ou bien un petit problème à l'école maternelle des enfants où un des enfants aurait peut-être tapé un autre et donc ça crée des gros conflits, etc. Enfin bon, comme on peut l'imaginer. Mais c'est pas là le principal, quoi. On a des paysages magnifiques qui sont très bien filmés. On a j'ai dit des paysages ou des personnages. Je voulais dire des paysages.
Je pense pas... que c'est bien paysage que tu as dit.
On a aussi des personnages auxquels on est totalement accroché, qui sont magnétiques, j'ai envie de dire. Ces femmes sont superbes, ouais. Et voilà.
On l'a compris, tu l'as bien vendu. Si on veut laisser un peu de place aux autres.
Oui, la seule chose que je dirais, c'est que vraiment ma crainte, ce serait que tous les petits, enfin les différents interrogatoires qu'on entend parce que justement il y a eu un crime, ce sont des gens qui ne sont pas des personnages principaux, donc évidemment puisqu'on doit garder le mystère sur qui est mort, on va pas nous donner déjà des indications en nous montrant que telle ou telle personne ne le serait pas en étant interrogée. Mais donc et c'est l'occasion d'entendre énormément de préjugés éculés sur les femmes qui ne s'entendraient pas entre elles et qui peuvent faire des montagnes de toutes petites choses, etc. Et donc, pour moi, à la manière dont c'est filmé, à la manière dont on nous fait vraiment entrer en communion avec ces femmes-là, ça ne peut pas se retourner contre elles. Mais il y a toujours un risque malgré tout, et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Que vraiment ça ne soit que ça. Qu'au final, la révélation, c'est que ce soit que vraiment, ce sont des chamailleries entre femmes qui est mal tournée. Ça me dérangerait vraiment. Mais je ne crois
et
pas.
Et confiance.
Sincèrement, ça a l'air plutôt bien parti.
Ouais.
Donc voilà. Je le conseille vraiment, surtout que ça traite aussi de sujets assez lourds qui méritent d'être mis en avant, notamment autour de la violence conjugale ou du viol. Et donc c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Voilà.
Bien.
Pour cette première série, ce sera tout.
Alors, deuxième série.
Elle méritait quand même ce temps-là.
Sa place.
Voilà. Deuxième série dont je vais parler. Cette fois-ci, je vais parler d'une série que je n'ai pas plus aimé que ça. Comme ça, okay. ça compensera. Il s'agit de The Arrangement, proposé par la chaîne E-Entertainment.
Oui.
Si tu vois de quoi je veux parler. Donc, il s'agit ici d'une jeune actrice à qui l'on propose, alors que elle galère pas mal, hein, elle va de casting en casting et c'est pas facile du tout. On lui propose tout à coup de donner la réplique dans un casting, donc on n'est pas encore sûr du tout qu'elle sera prise, mais c'est déjà exceptionnel, à la grande star du moment. Bon, j'ai pas du tout retenu les noms, mais toujours est-il que cette grande star en question, on le voit directement, est plus ou moins sous l'emprise d'une sorte de gourou. Il y aurait là derrière une sorte de secte qui ne peut pas ne pas faire penser à la scientologie. On a vraiment l'impression d'avoir une répétition de ce qu'on avait pu entendre, notamment sur Tom Cruise, dont la scientologie aurait organisé des rencontres avec certaines actrices. Donc, ça fait beaucoup penser à ça. Et donc, finalement, ce casting, on ne sait pas trop si c'est un casting pour un film ou un casting pour devenir sa nouvelle femme. Elle, en tout cas, elle ne s'en doute pas du tout, et elle est absolument ravie et enchantée quand la star en question semble tomber sous le charme de son jeu d'actrice, lui propose d'aller manger un bout ensemble après avoir joué leur scène, et puis éventuellement d'aller sur une île je sais pas moi.
Plus ample connaissance.
Voilà, faire plus ample connaissance. On va le dire comme ça. Donc, ça a l'air d'être la vie de princesse tout à coup, le conte de rêve qui est le conte de fées qui se réalise. Bon, tu te doutes que vu le contexte, on se méfie quand même. Hein, et de fait, le lendemain. Alors qu'elle est rentrée chez elle, elle reçoit un contrat lui proposant une sorte d'arrangement, disant que à terme, elle accepte de devenir la fiancée, puis la femme de la star en question. Donc tout s'accélère tout à coup, alors qu'elle ne l'a rencontrée que depuis 48 heures. Bon, là où c'est ballot, c'est que sincèrement, on ne peut pas s'empêcher, nous, derrière notre écran, de nous dire « mais n'y va pas, quoi. C'est n'importe quoi, c'est un piège. Forcément, ça risque pas de bien tourner, cette histoire, donc n'y va pas. Mais tu te doutes qu'elle y va, sinon il n'y aurait pas d'histoire.
Bah oui.
Et donc, voilà. J'ai regardé deux épisodes. Et bon, c'est gentillet. Il y a rien à redire vraiment, sauf que ça n'a pas grand intérêt justement parce que les acteurs, la psychologie des acteurs ne semble pas suffisamment poussée pour être crédible, quoi. C'est plus à ce niveau-là que je situerais le problème. Voilà.
Ok.
Donc, on passe à la trappe The Arrangement. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et on passe à la troisième et dernière série dont on parlera aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette première partie. Il s'agit d'une série Amazon qui s'appelle Goliath. Goliath.
Connais pas.
Qui est une série autour d'un avocat.
Mmh.
Un avocat qui est une sorte de vieille gloire déchue, un peu alcoolique, enfin tu vois l'anti-héros classique, hein,
oui,
ce genre de
classique.
Personnage qu'on a déjà vu
en policier,
notamment en policier, oui, c'est vraiment un héros traditionnel sur ce plan-là et qui va se retrouver plus ou moins obligé de prendre une affaire assez louche dans laquelle un homme qui est censé s'être suicidé, en tout cas c'est la version officielle, aurait en vérité été victime d'une sorte de grande compagnie qui ferait des bombes en cachette ou quelque chose comme ça.
Mmh.
Voilà. Alors, quel est l'intérêt de cette série-là ? Je vais te dire, j'aime beaucoup. J'avais adoré le premier épisode, j'avais tout de suite adhéré à ce qui nous était proposé. En grande partie, c'est vrai pour l'acteur qui joue le personnage principal, qui est Billy Bob Thornton, un truc comme ça. Billy Bob Thornton, enfin bref, qui est juste génial. Donc déjà rien que le regarder jouer, c'est un vrai plaisir. Et puis même si c'est un type de personnage qu'on a déjà vu et revu, mais malgré tout, c'est toujours un personnage qui nous est sympathique assez directement, quoi. Il y a pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Il est entouré, je trouve, et ça c'est un truc que j'apprécie aussi, par un casting assez intéressant de femmes, puisque même si chacune de ces femmes sont soit au service de lui, soit au service de son adversaire, qui sont toutes les deux des figures masculines, on va avoir quand même, autant d'un côté que de l'autre, la plupart des personnages seront des personnages féminins. Ça, c'est une bonne chose, ça nous donne une belle diversité à ce niveau-là. Et puis l'histoire est assez intéressante et assez bien menée. Jusqu'ici, j'en ai vu 6 épisodes et je veux dire que ils arrivent bien à maintenir la tension au bout de chaque épisode. Il y a certains épisodes même où tu es assez interloqué par ce qui te donne à voir et donc tu as envie d'en savoir plus. Donc c'est plutôt bien joué. Je dois dire, pour cette nouveauté. À noter que autant Big Little Lies que Goliath ont à leur source le même créateur, un créateur très connu puisqu'il s'agit de David E. Kelly, qui est connu pour plein de séries d'avocats, notamment The Practice, Ally McBeal, Boston Justice, etc., etc., etc. Donc, il semble faire un retour gagnant cette année-ci, et c'est plutôt agréable à voir. Voilà.
Bien.
Ce sera tout pour ces nouveautés.
Il était temps, malgré tout. On va s'écouter une petite chanson, si tu veux bien.
Oui, on va s'écouter On Top of the World de Imagine Dragon, entendu dans The Mindy Project.
Épisode 22 de la saison 4, c'est maintenant qu'on entame le vif du sujet. Quel est-il justement ce sujet du jour ?
Eh bien, on va naviguer entre sexisme et féminisme dans nos séries, voilà.
D'accord, un sujet que tu portes haut et fort dans ton cœur.
Oui, c'est vrai, parmi tant d'autres.
Bon, on va voir comment tu défends ça, on t'écoute.
Alors, on va commencer par, dans cette première partie, parler des différentes problématiques qu'on va pouvoir retrouver dans les séries, les représentations qui posent problème et qu'il serait temps de ne plus voir, on peut l'espérer, à l'avenir. Alors, je commence tout de suite. Le premier type de représentation qui pose problème, c'est pas tellement l'image en elle-même, c'est le fait que bien souvent, trop souvent, il y a une sous-représentation représentation, tout simplement, des femmes. Et du coup, à partir du moment où il y a une sous-représentation, eh bien, il y a un manque de diversité. Et du coup, ça va mener à ce que les seuls personnages féminins qui se trouvent dans la série se retrouvent portés des stéréotypes énormes à elles toutes seules, quoi. Donc ça, c'est très, très embêtant, évidemment. Et en plus, mais si on rajoute à ça que on a beaucoup de stéréotypes sexistes, misogynes qui peuvent parfois être véhiculés par les séries comme par beaucoup d'autres supports, hein. On est d'accord sur ce point que ça ne se limite pas aux séries. Mais c'est le cas aussi ici. Alors, ce serait quoi les stéréotypes en question ? Ben, ce serait la victime, la femme qui n'est représentée que comme étant la victime de service. Hein. À chaque épisode, ben on a la femme à secourir ou bien la femme qui est morte parce qu'elle a été victime d'un méchant. Et puis c'est au héros de reprendre les choses en main pour rétablir le bon droit de la veuve et de l'orphelin ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est évidemment embêtant. Autre type de stéréotype sexiste qu'on va pouvoir retrouver, c'est la celle qui manigance, celle qui la méchante, tu vois, la bitch, quoi, la salope, celle qui passe son temps à faire des sales coups, qui va tout faire pour essayer de rompre le couple qui est si beau à l'écran, ou que sais-je encore. On en a énormément aussi, des personnages comme ça, des personnages auxquels on ne donne aucune profondeur psychologique, parce qu'en soi, c'est pas inintéressant d'avoir ce genre de représentation-là, sauf que c'est intéressant si on leur donne des raisons, si on leur donne une certaine profondeur psychologique, s'il y a un background derrière, si c'est seulement estimé que il y a des femmes qui sont comme ça, point,
si c'est
sans
juste
chercher
un
plus loin.
Stéréotype.
Ça n'a pas grand intérêt, quoi. Hein. Donc voilà, évidemment, tout ce que je suis en train d'expliquer là, c'est pas pour dire que on peut pas le représenter ou que ça n'existe pas. C'est juste que c'est intéressant si on donne de l'épaisseur au personnage, si c'est juste pour qu'il tienne un rôle dans une narration. Et rien de plus, c'est une sorte de pion qu'on avance comme ça. Ah, je vais avancer le rôle de la salope maintenant et ça va faire avancer mon récit. C'est pas très intéressant, quoi. Ça donne en tout cas pas plus d'étoffe au personnage féminin et donc c'est très dommage.
Comme
la fille adolescente chieuse. Aussi, qui très souvent, malheureusement, va être la chieuse de service. Hein, et donc... quand une fois de temps en temps on se retrouve face à un personnage d'adolescente intéressante, on est tout étonné, tout perturbé, mais qu'est-ce qui se passe? où est passée la... Est-ce qu'elles ne sont pas toutes comme ça? Le dérèglement hormonal de l'adolescence ne fait-il pas de toutes les jeunes filles des personnages énervants au possible? Ben, peut-être pas, on ne sait pas.
Sans parler du fait que parfois elles ont leurs règles et donc
d'office,
elles sont
forcément, c'est pire, t'imagines. C'est double dose, quoi. Donc, voilà, merci pour cette
petite
précision.
Notation. Mais non, mais c'est encore quelque chose, une expression que j'ai entendue au bureau aujourd'hui.
Ah oui.
Envers un mec, hein. Et quoi, tu as tes règles ou quoi? Parce qu'il était énervé, tu vois?
Oui, mais c'est le genre de truc qui énerve pas du tout, justement.
Toi, je suis sûr que tu serais sorti de tes gonds. Même moi, je me le suis dit. Et pourtant, je suis plutôt tolérant, mais non. Là, ça, c'était un peu trop.
Oui, bon. Donc, voilà un autre exemple. Autre exemple vu et revu aussi, c'est le fait que les femmes ne s'entendent pas entre elles. Et donc, on va avoir constamment des petites querelles entre femmes qui se basent sur rien du tout. Hein. Ce sont des petites querelles insignifiantes, évidemment, puisque leur vie n'est pas très passionnante. Mais il n'empêche que ça provoque à chaque fois énormément de remue-ménage. mariage pour pas grand chose, ça dérange les maris, etc. Et finalement, c'est beaucoup d'embêtement pour rien, tout ça. Hein.
Bien sûr, ça fait du bruit et tout.
Oui, c'est embêtant. C'est ce qu'on appelle les catfights.
Ah. Donc, il manque plus qu'une petite arène avec de la boue, petites tenues. Ouais.
Mais c'est exactement ça. On est dans le fantasme absolu. Hein.
Non.
Finalement, ça arrange peut-être bien certains hommes de voir que les femmes ne s'entendent pas entre elles et qu'elles se battent. Parfois même pour leur corps, pourquoi pas.
Ah oui.
Alors évidemment, ça c'était plutôt dans les stéréotypes négatifs, mais on pourrait aussi dire la même chose dans les stéréotypes positifs. Hein. Par exemple, la bonne mère, la bonne épouse et tout ça sont aussi problématiques que les stéréotypes présentés comme négatifs, puisque finalement ça enferme tout autant les femmes dans un rôle plutôt que de leur donner une individualité réelle, quoi. Donc voilà, ça c'était au niveau des stéréotypes. Alors, autre problème qu'on va pouvoir retrouver aussi, c'est ce qu'on appelle le male gaze. C'est le fait que, bien souvent, alors en partie parce que la réalisation est faite par des hommes, parce que l'écriture est aussi proposée par des hommes, on va avoir un regard sur ce qui se déroule, qui est un regard masculin. Autant dans la manière de mettre en image, et notamment de mettre en image les corps des personnages féminins. Hein. On va insister beaucoup sur certaines parties de leur anatomie, plus que sur leur personne en entier. Ça, c'est simplement au niveau d'une technique de mise en scène, hein, mais au niveau de l'écriture aussi, ça va se retrouver, puisque ben, si on prend uniquement le point de vue masculin pour regarder les histoires, forcément, ça expliquerait notamment qu'il y ait une telle sous-représentation de femmes dans certaines séries. Finalement, les femmes ne sont pas tellement importantes dans ce cas-là, puisqu'on est en train de suivre uniquement un point de vue en particulier, qui est celui du héros masculin. Les femmes sont secondaires, quoi.
Ouais, sont des objets dans la série.
Voilà, ben oui, c'est tout à fait ça. Je rajouterais encore dans les représentations problématiques le fait qu'on se retrouve souvent face à un double standard entre le traitement qui est réservé aux hommes et le traitement qui est réservé aux femmes, notamment, mais c'est évidemment pas le seul cas, mais dans le rapport à la sexualité, dans le rapport à la famille, ce sont quand même les sujets qui sont les plus sensibles à ce niveau-là, où mais on va pas du tout représenter de la même manière le premier rendez-vous d'un garçon que le premier rendez-vous d'une fille, qu'on va pas du tout représenter de la même manière la première expérience sexuelle d'un héros masculin ou la première expérience sexuelle d'une héroïne féminine. Ce genre de choses-là fait aussi beaucoup dans la différenciation. On nous montre clairement que ça n'est pas la même chose. Ça n'est par exemple pas du tout la même chose lorsque ton fils commence à avoir une sexualité que quand ta fille commence à avoir une sexualité. Parce que là, c'est grave. Et ça arrive quand même souvent que dans les séries, ça provoque des disputes familiales. Hein. Le papa est souvent pas content. Encore aujourd'hui.
Oui.
Ce qui moi me fascine. Encore dernièrement, il y avait un double standard comme ça dans la série Lethal Weapon que j'avais trouvé. Enfin, je me disais, je croyais qu'on n'en était plus là, mais apparemment si, on en est encore parfois, on en est encore parfois là. Dernière chose, on nous présente aussi souvent des relations qui sont problématiques. Alors, un des éléments qui est très problématique, qu'on retrouve parfois dans certaines séries, c'est la fameuse intrigue de la personnage de le personne oh, oh le personnage de la méchante, de la bitch qui a inventé, qui accuse le héros de viol alors qu'en fait c'est pas vrai, elle l'a inventé. Et donc ça c'est très embêtant quand même de présenter ce genre de choses comme finalement quelque chose d'assez banal, hein.
Comment, oui.
Le fait que, bah oui, pour s'amuser, ça arrive souvent aux femmes d'accuser les hommes de viol, c'est le genre de truc qu'on fait tous les jours. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Tout le concept de la friend zone, alors bon, on sait bien que autant, enfin je pense par exemple à une série comme Friends ou une série comme Scrubs, etc. C'est pas aussi simple que ça parce que dans la durée, ce concept de friend zone finalement n'est pas aussi figé que ça et on voit que tous ceux qui sont présentés comme étant plus ou moins friend zonés à un moment finissent quand même par sortir de cette pseudo zone, donc voilà, c'est peut-être à remettre en perspective, mais malgré tout c'est un concept dont on a suffisamment dit qu'il était problématique, donc autant y faire un peu attention. Et enfin, dernière chose très 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 problématique, et je ne sais pas du tout encore comment régler cette histoire-là, c'est la question du consentement et du harcèlement qui est souvent présenté comme étant une sorte de démarche romantique. Alors, je te dis ça, mais c'est quasiment pour toutes les séries où on nous présente des grands amours romantiques, tu vois. Je peux penser à la manière dont Pacey va embrasser Joey plusieurs fois avant que vraiment elle ne finisse par céder. Je peux citer la manière dont Spike va poursuivre Buffy de sa convoitise jusqu'à ce qu'elle aussi finisse par céder. Enfin, il y a énormément de séries, pas uniquement que des séries d'adolescentes, mais peut-être que ce sont les exemples qui me viennent actuellement à l'esprit. Mais il y a beaucoup de séries dans lesquelles on a un couple qui est mythique, qui nous paraît absolument magnifique, et il est magnifié. Et en même temps, quand on regarde bien, le début de la relation est un peu problématique. Quoi,
ouais.
Parce qu'il y a une forme de non-respect de simplement du consentement de la fille, quoi.
Ouais, le droit de la femme, quoi. En gros.
Voilà. Et ce qui pose vraiment problème dans cette histoire-là, c'est qu'à chaque fois, on nous représente le fait que les filles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. En vérité, elles veulent vraiment de cet amour-là. Secrètement, elles veulent que le garçon en question continue à les pourchasser, entre guillemets. Mais par contre, elles n'en ont peut-être même pas conscience elles-mêmes, ou en tout cas, elles ne le disent pas, quoi. Et donc, ça, c'est aussi un effet de ce que je racontais juste avant, que on n'approfondit pas suffisamment la psychologie des personnages féminins. Normalement, tu es censé quand même savoir un minimum si tu ressens du désir ou pas, quoi, tu vois. Et là, on nous présente toujours ça comme si, ben non, quand t'es une fille, tu sais pas. Et il faut attendre de voir que finalement, ben oui, le garçon avait raison de continuer parce que finalement, oui, t'en avais envie, mais tu le savais pas encore. C'est quand même bizarre. Et donc, on ne peut pas s'étonner après qu'il y ait certaines personnes qui croient et qui finissent par avoir des comportements qui peuvent mener au viol sans même se poser trop de questions, quoi. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Voilà.
Magnifique.
Génial, hein?
Oui.
Bon, ben on va passer à la musique sur ce petit point.
Sur cette petite note positive de fin de chronique. Alors, c'est côté musique.
Alors, côté musique, on va s'écouter I'll Take You There, justement, de The Staple Singers, entendu dans Felicity et Orange is the New Black.
I know a place, ain't nobody crying, ain't nobody worried, no. Ain't no smiling faces, no, lying to the races, help me, come on, somebody help me.
Stressante pour entamer déjà la dernière partie de cette émission. Nouveau format finalement qui s'adopte de semaine en semaine. Trois séquences au lieu de quatre au final.
Mais on n'a jamais le temps.
Maintenant, il va falloir passer soit sur ce format-là, soit demander 2 heures au patron.
Oui, ben oui.
Oui, mais je sais pas. Il n'a pas l'air chaud. Il se dit, zut, 2 heures, vraiment.
Non, mais je crois pas qu'on imposerait ça. Ce serait un peu cruel.
Bon. Que veut-il déjà encore exposer par rapport aux séries et au sexisme ?
Alors, ben justement, on a fait toute la partie sexisme dans la première partie. On va quand même parler de ce qui se passe de bien aussi du côté
bien, oui.
Des séries. Donc, tout ce qui va dans le bon sens de la représentation non sexiste, justement. Alors... Donc, je vais parler des tentatives exemplaires. J'imagine que le fait qu'on puisse dire comme ça que certaines séries sont particulièrement exemplaires signifie aussi que ben, c'est pas encore la majorité. Mais malgré tout, c'est un bon commencement. Donc, autant en parler. Alors, pour commencer, il faut reconnaître que... à la télévision, dans les séries, on a quand même un grand nombre d'héroïnes. J'ai dit qu'il y avait une sous-représentation des femmes, mais en même temps, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'héroïnes, probablement plus qu'au cinéma, et on ne peut que s'en réjouir. Et on va d'ailleurs avoir beaucoup d'héroïnes dont on nous propose vraiment de suivre tout un parcours initiatique. On peut observer le fait de devenir femme, ce que ça peut signifier, ce que c'est, ce que ça implique, etc. Alors, je pense à quoi comme série quand je parle de ça. Je peux parler d'une série comme Flesh and Bones, je peux parler d'une série comme Wolf Creek, je peux parler d'une série comme The Girlfriend Experience, je peux parler de Buffy, évidemment. Je crois que il y en a quand même pas mal qui sont sur ce modèle-là et qui sont intéressantes à suivre. Une série comme Girls aussi pourrait être vue comme une sorte de parcours initiatique de différentes jeunes filles qui deviennent femmes. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant à voir justement la manière dont on laisse de plus en plus de place à ces parcours-là. Alors, on va aussi avoir certaines séries dans lesquelles on a une véritable parité qui s'instaure, autant au niveau de la présence simplement des personnages à l'écran que au niveau de l'intérêt des trames narratives qu'on leur donne à suivre. Et c'est pas pour rien que là, on entend derrière, en arrière-plan, le thème de The Americans, parce que vraiment, c'est un bon exemple, me semble-t-il, de cette tendance-là, qui est pas énormément suivi, hein, malgré tout. C'est pas du tout une grande majorité de séries qui en sont arrivées là, mais il y en a certaines quand même qui finissent par l'adopter, et donc ça aussi c'est assez intéressant de le constater. Dans The Americans, l'intérêt de suivre le personnage masculin et la place qu'il a dans l'histoire, la place qu'il a à l'antenne tout simplement, enfin à l'image, etc., est aussi importante que la place de sa femme, et de même pour leur adolescente, où là aussi on a plutôt tendance à casser un peu le stéréotype de l'adolescente de base qu'on peut nous représenter habituellement. Donc c'est une série qui peut être présentée comme exemplaire sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On a parlé du fait qu'il pouvait y avoir des doubles standards parfois dans la représentation. Eh bien, on va aussi avoir des séries qui vont essayer de nous présenter le plus possible une équivalence de traitement, où finalement les hommes et les femmes sont traités comme simplement des êtres humains à part entière et pas comme étant simplement représentatifs de leur genre ou de leur sexe. Donc ça, c'est aussi une avancée qu'on peut constater dans certaines séries. Un autre point dont on parle beaucoup actuellement, parce que justement il fait beaucoup d'émules autour de plein de nouveautés et aussi auprès de séries un petit peu plus anciennes, c'est le fait que la série peut devenir un prétexte à mettre en lumière certaines problématiques typique du sexisme ou de la misogynie ou de la culture du viol ou ce genre de choses-là, qui jusqu'ici n'étaient pas suffisamment présents, n'étaient pas suffisamment traités. Alors évidemment, on peut penser à la question du viol comme dans Sweet Vicious, comme dans Jessica Jones, comme dans Unbreakable Kimmy Schmidt, dans Flesh and Bones, et on pourrait évidemment en citer encore beaucoup d'autres. Dans Top of the Lake, c'était le cas aussi, par exemple. Mais on a aussi les problématiques d'injustice, de traitement professionnel. Dans un des derniers épisodes de Mindy Project, justement, il y avait tout un épisode autour de cette thématique-là qui était assez intéressante. Ça peut être dans American Crime Story, le fait qu'un épisode se concentre à montrer à quel point le personnage de Marsha, je sais plus quoi, vu que je retiens jamais les noms, a été vraiment victime d'un acharnement de la part des médias sur le simple fait qu'il s'agissait d'une femme. Donc on peut dire que on a beaucoup de séries qui prennent à bras le corps toutes sortes de problématiques qui étaient quasiment invisibilisées précédemment. On peut citer aussi l'épisode sur le harcèlement de rue dans Master of None. On peut citer un des derniers épisodes de Girls aussi, où elle se retrouve face à un mec qui lui sort son sexe comme ça, sans raison. Enfin, le genre de truc que en tant que femme, tu peux être amenée à vivre sans que jusqu'ici ça n'ait vraiment été traité. Et donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on a aussi ? On a évidemment le fait que certaines séries essaient de renverser les stéréotypes et puis qu'on diversifie le plus possible l'offre des rôles féminins, quoi. Et à ce niveau-là, il y aurait probablement encore beaucoup de choses à faire, mais le fait de pouvoir avoir des femmes tueurs à gages ou tueurs en série, pouvoir...
Ouais, c'est bien de les mettre dans ces rôles-là aussi.
Ben oui, ça peut être beaucoup plus vaste que simplement les quelques rôles qu'on leur réserve actuellement, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que...
Ça s'améliore.
Ça s'améliore vraiment beaucoup et il reste encore plein de choses à faire et c'est ça qui est passionnant parce que justement, pour le moment, tu constates une vraie, un vrai intérêt pour le sujet dans plein de séries différentes et c'est passionnant de voir comment tous ces sujets sont traités. Donc voilà, ça peut être très très intéressant. On peut encore citer quelques séries qui ont plutôt bien travaillé sur le sujet. Une série comme Crazy Ex-Girlfriend et comme Jane the Virgin aussi s'attaque vraiment aux stéréotypes pour nous présenter des personnages humains, finalement, uniquement humains. Il y a une grande humanisation et aussi une volonté de présenter des amitiés entre filles qui ne sont pas suffisamment représentées. Dans Grace and Frankie, c'est aussi intéressant parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes à partir d'un certain âge qui sont représentées et en plus qui développent des liens d'amitié. Donc tout ça, bien souvent, les femmes âgées sont représentées comme des femmes aigries et donc ça, c'est aussi important de représenter des femmes âgées qui peuvent être épanouies et qui sont pas uniquement des grand-mères gâteaux. Alors on a aussi le fait d'avoir des femmes qui sont plus entreprenantes et qui savent ce qu'elles veulent au niveau de leur sexualité. Dans une petite série adolescente comme Faking It par exemple, on peut avoir parfois ce genre de choses où on se dit ah, ça fait du bien de voir ça aussi. Dans Masters of Sex évidemment, même si je crois que tout le monde le sait maintenant, toutes les saisons ne se valent pas, mais au minimum, la deuxième saison sur ce sujet est assez exemplaire. Par contre, il y a des séries, évidemment, qui peuvent être intéressante à certains moments et moins à d'autres. Je pense par exemple à une série comme The Affair qui, pour certains épisodes, tout à coup a une sorte d'éclair de génie. Notamment, il y a un épisode sur justement le male gaze dont j'ai parlé tout à l'heure, où on voit combien l'auteur représente sa nouvelle femme de manière absolument insupportable, et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et en même temps, dans le même épisode, on va nous représenter un viol conjugal assez problématique, et donc ça c'est vraiment une série qui mériterait d'être critiquée en profondeur, parce que elle navigue entre deux eaux, quoi. Bon, on pourrait évidemment continuer encore longtemps, mais je vais clôturer plus ou moins ce que je suis en train de dire, en disant que finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que une série est censée prendre en compte la réalité ? Et donc la réalité, c'est aussi le sexisme ambiant, le fait que oui, ça existe, que toutes ces choses-là existent, ou bien est-ce qu'elle devrait représenter uniquement un idéal ? Est-ce que des femmes qui se disputent, ça existe ? Ben oui, ça existe. Et donc, du coup, on pourrait dire oui, mais du coup, ça n'a pas de sens d'exiger qu'on représente absolument des amitiés entre femmes. Mais en même temps, il y a une grande différence entre représenter uniquement des femmes qui s'entendent bien ensemble et puis ne représenter jamais des femmes qui s'entendent bien ensemble. Donc c'est aussi une question de nombre, quoi, de quantité, où là bien souvent ça fait défaut. Et puis il y a aussi la manière dont certaines choses sont représentées. Par exemple, une série comme Sons of Anarchy qui nous représente des femmes qui sont parfois très maltraitées, qui se prennent des coups, etc. On est dans un milieu de bikers, on peut imaginer que c'est assez normal, mais en même temps,
oui.
Au bout d'un moment, ça devient tellement répétitif et c'est représenté de manière presque, elle l'a mérité, c'est un peu jouissif quand même qu'elle s'en prenne une, que ça devient très très problématique quand même, quoi. On est presque en train de titiller une corde sensible un petit peu vicieuse à ce niveau-là, donc c'est problématique, quoi. Voilà, il faut se rendre compte que finalement nos représentations, elles configurent autant notre manière de regarder la réalité que le contraire, et donc tout ça nous empêche de voir aussi une quantité de réalités qui sont totalement invisibles à cause de ça. Donc, ce qui est important, c'est d'apporter énormément de nuances. Le sexisme et la misogynie, c'est vrai, ils existent dans la réalité. On ne peut pas se contenter de simplement les nier, mais en même temps, il faut être capable de les déconstruire sur le temps long. Et c'est ce que certaines séries sont capables de faire de mieux en mieux, et on ne peut que s'en réjouir. Voilà.
Merci, Aurore.
De rien.
Bon. En clôture, en disant que cette émission sera évidemment podcastée dans les prochains jours, disponible via le site internet www.serifolie.be et les réseaux sociaux également. On va se quitter en musique.
Oui, on va s'écouter Human Behavior de Björk, entendu dans Gilmore Girls.
Merci à toi, Aurore. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.